Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Après VibraSOS sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique et technique. On fait la revue de presse de l'actualité pour parler des domaines un petit peu divers comme les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les objets communicants, l'espace, la médecine, que sais-je encore. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Jean-Noël, c'est mon nom. Carole, c'est son prénom. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Comment vas-tu depuis la semaine dernière?
Très bien, très bien. On t'accompagne toujours.
Mais je sais, mais tu nous proposes toujours des articles de qualité. On a parlé de la biodiversité il y a 2 semaines. On a parlé des tests génétiques la semaine dernière. Là, je pense que tu nous as encore concocté un programme de qualité pour cette émission. Et je
programme chargé aujourd'hui.
Je n'en doute pas. Donc, je vais essayer d'être assez rapide pour le micro et te laisser quand même pas mal la parole pour avoir le temps de développer l'ensemble des articles que tu proposes. On retrouvera également dans cette émission, comme depuis quelques semaines, Anne Fleur, qui nous emmène un petit peu partout dans le monde pour découvrir les inventions. Elle choisit une ville, elle s'y arrête et elle nous présente les inventions qui ont été créées. Et là, je pense qu'on va rester en Europe. On retrouvera bien sûr Anne Fleur tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin, journée mondiale de l'océan.
Oui, l'océan. Bah, non, il en faut bien une, ça, c'est quand même.
Je suis d'accord.
Un espace sur la Terre qui
exactement.
Occupé par les océans qui est important avec une biodiversité, on en parlait du coup il y a 2 semaines, qui est quand même durement touchée. Donc, important quand même de prendre
le temps de
parler des océans.
Ça permet de sensibiliser, sûrement de prendre une journée, de faire une sensibilisation. Et tous les jours, il y a. Enfin, pas tous les jours, mais en général,
oui.
Il y a quand même. Non, parce que pendant tout le mois de mai, à chaque fois que je faisais l'émission qui tombe un samedi, il n'y avait aucune journée internationale, donc il n'y avait rien. Mais là, le 8 juin, la journée mondiale de l'océan.
C'est reparti en juin.
Et c'est reparti en juin, et donc on va peut-être parler de l'océan dans cette émission, allez savoir. Au niveau de l'éphéméride, le 8 juin 1637, la publication du discours de la méthode de Descartes, bien sûr, à la haie, c'est en 1637, c'est quand même presque 5 siècles. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Bon, tu n'as pas connu, toi, Descartes?
Non,
pas
non,
encore.
Non.
En 1887, Hermann Hollerith dépose le brevet de sa machine à statistique à cartes perforées. Ça date de 1887 à 8 juin. Le Zeppelin LZ-121 va avoir son vol inaugural le 8 juin 1921 aussi. On va bientôt fêter les 100 ans. En 1948, c'est la sortie de la Porsche 356 numéro 1, la première voiture de sport développée et produite par Porsche. Le premier vol du North American, c'est l'avion avec le pilote le plus rapide du monde. C'était le 8 juin 1959. En 1995, c'est un petit peu plus récent, il y a 24 ans, Ramsus Lerdorf publie la première version de son langage de script libre, le PHP, très connu des développeurs informatiques. Et enfin, en 2016, l'Union internationale de chimie pure et appliquée propose des noms anglais pour des éléments chimiques qui ont été découverts récemment. Elle va donc proposer le néonium, le moscovium, le ténécine et l'organesson pour ces éléments chimiques qui ont été créés, synthétisés récemment. Et bien, à l'occasion de cette année internationale du tableau périodique des éléments, vous le savez, toutes les semaines avec Biotine, on remplit une case. Et donc aujourd'hui, je vous propose de remplir la case 113, qui est donc la case du néonium. On a donné le nom de néonium à ce radioélément qui n'est pas naturel, qui a été produit par l'homme, qui a été synthétisé pour la première fois par des Japonais en juillet 2004. C'est en cours d'étude actuellement, c'est pas trop les applications. On l'a créé, puis on verra après à quoi ça sert. Le néonium numéro 113 et le symbole grand N, petit h. Au niveau de l'éphéméride, la naissance de Robert Stephenson. Ça te dit quelque chose peut-être, Robert Stephenson?
Oui.
Je n'en doute pas, cet ingénieur civil écossais. C'est un constructeur de phares maritimes. Il était connu notamment pour avoir construit le phare de Bell Rock situé dans la mer du Nord. Évidemment, tu pensais à quelqu'un d'autre quand je te disais Robert Stephenson.
Je pensais à l'écrivain.
Eh bien, l'écrivain, c'est le petit-fils, en
d'accord.
fait. Lui, c'est le grand-père du romancier de Stevenson. Le grand-père né un 8 juin 1772 et mort en 1850. Robert Stevenson, constructeur de phares maritimes. Au niveau des décès, ce 8 juin, on peut noter la mort le 8 juin 1998, donc il y a 21 ans, du physicien et philosophe Jean-Émile Charon, ingénieur de l'École supérieure de physique et de chimie. Jean-Émile Charon s'est d'abord spécialisé dans la recherche recherche nucléaire au CEA de Saclay. Dans les années 60, il s'oriente définitivement vers la physique théorique fondamentale où il cherche à prolonger les idées d'Einstein. Il est donc décédé le 8 juin 1998. C'est toujours intéressant dans ses éphémérides de s'arrêter sur le parcours de certains scientifiques qui ont apporté énormément de choses, même si après leur nom n'a pas survécu, sauf si on lui donne le nom d'un boulevard. Eh bien, pour l'instant, Jean-Émile Charron reste encore connu du milieu de la physique théorique fondamentale, mais pas trop du grand public. C'était important aujourd'hui de pouvoir noter et célébrer ce grand scientifique à l'occasion de cette éphéméride. Voilà, j'ai tout dit et maintenant, Carole, c'est à toi à l'occasion de cette journée mondiale de l'océan. Je suppose que tu vas nous proposer de faire un gros plouf.
Alors, pas tout à fait. En tout cas, je vous propose de nous réchauffer tous ensemble puisque je vais parler des canicules marines. Donc c'est un article publié par Science Post il y a déjà quelques temps, mais c'est un sujet qui revient en fait régulièrement. Hein, c'est ce sujet des canicules marines. Et donc apparemment, depuis 70 ans, ce qui est encore une fois une échelle de temps très courte, eh bien, elles ont doublé. Évidemment, ces canicules, elles ne sont pas ressenties par les humains, mais elles impactent fortement les écosystèmes sous-marins. Et selon justement une récente étude, ce phénomène devrait à l'avenir être de plus en plus fréquent et destructeur. Alors en fait, depuis la moitié du XXe siècle, le nombre de jours relatifs aux canicules marines a augmenté de plus de moitié. Ça, c'est selon une étude qui a été publiée dans la revue Nature Climate Change. En mars 2019, et ces recherches, elles ont été menées donc par des scientifiques de la Marine Biological Association et de la Marine Conservation Society.
J'adore quand tu parles anglais, ça me fait rire.
Non mais là on sent que voilà, il est l'heure de manger. J'ai un petit coup de fatigue. C'est-à-dire donc en tout cas des scientifiques basés au Royaume-Uni et en Australie qui ont mené cette étude ensemble. Alors, je vous rappelle, surtout pour nos auditeurs, que le terme de canicule marine, il définit une période d'au moins 5 jours durant laquelle les températures enregistrées dans une zone précise restent proches des records connus. Et ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que ces chercheurs, ils évoquent en fait des records dans la plupart des bassins océaniques durant la dernière décennie. Selon eux, la plupart des écosystèmes ont malheureusement déjà été touchés par ces épisodes caniculaires. Alors, lorsqu'on entend parler du terme de canicule, il s'agit habituellement d'épisodes de forte chaleur qui nous concernent directement sur Terre, la Terre ferme bien sûr, mais il n'apparaît du coup, enfin en fait oui voilà, ça explique justement le fait que les canicules marines, elles aient moins fait l'objet de recherches. Pourtant, on s'y intéresse de plus en plus puisque leurs conséquences, elles pourraient être désastreuse pour les écosystèmes océaniques. On peut déjà en fait voir les effets de vagues de chaleur extrêmes sur la grande barrière de corail. En 2016, par exemple, les températures étaient si élevées dans certaines zones que les coraux sont morts sans même blanchir. Ça, c'est ce que relève justement un des scientifiques donc, en ayant participé à cette étude. Alors, les chercheurs indiquent que les coraux sont voués à disparaître, hein, mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle en fait. Hein. En effet, il pourrait également y avoir une disparition localisée des espèces de poissons et de crustacés destinés à la consommation humaine. Alors là, on sera directement touché. Et pire encore, la végétation marine, incluant par exemple les mangroves, ces écosystèmes de marais maritimes, elle pourrait être également touchée par ces températures extrêmes. Dans ce cas, le carbone stocké pourrait être libéré, ce qui contribuerait à augmenter le réchauffement climatique. Et or, c'est justement ce réchauffement climatique qui génère les canicules marines. Donc là, on comprend bien en fait le problème et l'entretien du cercle vicieux dont il va être très difficile de se sortir. Donc voilà, je voulais un peu attirer l'attention sur ce phénomène qui est évoqué régulièrement, mais c'est vrai que comme il est au fond des océans, on a l'impression peut-être que ça nous touche moins, que ça nous préoccupe pas. Néanmoins, voilà, il y a quand même des chercheurs qui mettent en lumière ces problématiques qu'il va falloir garder à l'œil.
Non, ce qui est intéressant, c'est le terme de canicule marine, en fait, qui est... On comprend l'idée du réchauffement, bien sûr, assez général, et évidemment, on parle très souvent des océans dans cette émission, mais le terme de canicule marine, je crois que c'est la première fois qu'on en parle dans cette émission. Donc, heureusement que tu es là pour nous faire apprendre des choses.
De rien, de rien. En fait, je le trouve bien choisi parce que...
Oui, c'est assez bien vu.
Ça permet de se rendre compte, en fait, de ce que ça peut être et peut-être aussi de donner, de bien mettre en évidence le côté destructeur puisqu'on sait très bien que sur Terre, les canicules, on veut à tout prix les éviter. Hein. On connaît les conséquences de certains épisodes et on sait également qu'on aura de plus en plus de phénomènes de canicules dans les années qui viennent.
Bien sûr. Donc, c'est un terme bien parlant. Ça, c'est bien vu. Ça, c'est des communicants qui ont trouvé ce mot-là. Félicitations à eux. Quand tu as démarré dans cette émission, Carole, je crois qu'il y a un petit peu plus de 2 ans, il me semble.
Dans ces eaux-là, oui.
Oui, me semble. L'un de tes premiers articles, c'était d'ailleurs pas un article, c'était carrément une interview que tu nous avais proposée pour parler du blob.
Oui, le blob.
Oui. Oh, oui. Il y a déjà longtemps que tu ne nous as pas fait ce oui, ça m'avait manqué.
C'en était un beau, un collector.
Il était spontané celui-là. Le blob. Tu peux nous rappeler ce qu'est le blob ?
Pas du tout, non, tu sais. Si, mais je pense que c'est toi qui vas encore mieux nous rappeler. Mais en fait, j'avais interviewé donc une chercheuse qui travaille là-dessus en France, à Toulouse, Audrey Dussutour. Donc j'imagine que ton article a un rapport et va nous parler. À nouveau de ce
à nouveau du
cet
blob,
organisme.
Parce qu'on a continué justement à travailler dessus et Futura Science a proposé un article il y a quelques jours. Et comme je savais que tu étais avec moi dans cette émission, je me suis dit, mais à tout prix, il faut que j'en parle pour nous rappeler justement de cette magnifique interview que tu avais fait dans des conditions périlleuses, je m'en souviens.
Au péril
techniquement,
de ma vie.
Techniquement, c'était pas simple. Le blob, c'est donc un organisme unicellulaire, donc une seule cellule. Alors évidemment, le blob, c'est étonnant qu'on ait choisi un petit peu ce nom-là parce que ça fait un peu flou, ça fait un peu visqueux, un petit peu quelque chose de sans forme.
C'est un peu cet aspect. Hein.
C'est un petit peu cet aspect, mais en tout cas, cet organisme, alors il a un nom, je vais essayer de me lancer dessus, c'est le Physarum polycéphalum.
Tout à fait. Je valide.
Tu valides. Et il n'a pas de système nerveux. Mais il n'empêche que c'est assez complexe. Et évidemment, et tu l'as dit, tu avais interviewé une chercheuse qui travaille dessus parce qu'on va essayer de récupérer des informations de cet organisme un petit peu particulier. Ils ont découvert, les chercheurs, en 2016, que cet organisme un peu étrange était capable d'apprendre et d'échanger des connaissances. Et comment ? On n'en savait rien. Eh bien, on en sait un petit peu plus aujourd'hui grâce à ces chercheurs de l'équipe du Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Paul Sabatier.
Alors, j'ai participé, en tout cas, j'ai pas fait ces recherches-là.
Hein. J'ai un prix Nobel avec moi,
non,
donc
non,
je
non,
sais
non,
même
mais
pas.
J'ai été étudiante au sein de ce laboratoire, en fait.
À Toulouse ? Donc,
oui, oui, dans le même laboratoire.
Mais je ne savais même...
Révélation en direct.
Alors, on est en train de faire radioscopie de Jacques Chancel dans cette émission. Tu vas nous raconter ta vie, Carole. Tu as travaillé dans ce laboratoire.
Oui, tout à fait. Donc, je sais que les recherches menées y sont de très grande qualité.
Ah, je n'en doute absolument pas.
Dédicace, si jamais ils nous écoutent.
Eh bien, je l'espère. En tout cas, on sait un petit peu plus aujourd'hui sur les échanges de connaissances et l'apprentissage de ce blob. Les blobs n'échangent de l'information entre eux que lorsque leur réseau veineux fusionne. Et pour essayer de comprendre un petit peu mieux le mécanisme d'apprentissage mis en œuvre, eh bien les chercheurs, tes anciens collègues, ont entraîné leur blob à évoluer dans des environnements salés. Bref, on les a mis pendant 6 jours pour essayer de les habituer à la présence de sel. Et c'est une substance qu'on va nommer comme aversive pour ces espèces de blobs qui sont un petit peu comme... Il y a des images, c'est magnifique à regarder en fait.
Oui, parce qu'il y a des belles couleurs.
Il y a des belles couleurs, même si au départ on peut considérer ça, en tout cas c'est ce que dit l'article, à des moisissures un peu visqueuses.
Oui, oui.
Oui, effectivement, c'est joli à regarder, mais c'est tout. Hein, ça s'arrête là. Et lorsque les scientifiques ont analysé la concentration de sel au sein de ces blobs, eh bien ils ont découvert quelle était cette concentration 10 fois supérieure à celle qui était mesurée dans des blobs témoins. Et il n'aura fallu ensuite que 2 jours dans un environnement neutre, donc on a enlevé le sel dans leur environnement, pour que les blobs excrètent ce sel, j'y arrivais, excusez-moi, et perdent ainsi la mémoire, entre guillemets, de cet apprentissage. Et pour confirmer le lien pressenti entre la concentration en sel dans l'organisme et la mémoire de l'apprentissage, eh bien, les chercheurs ont ensuite injecté du sel directement dans les blobs et ils ont pu observer que seulement 2 heures plus tard, eh bien, ces blobs se comportaient alors comme des blobs qui avaient subi précédemment un apprentissage de 6 jours dans l'eau salée. Ils ont appris et compris qu'il fallait l'expulser. Et les chercheurs ont observé que lorsque les blobs entrent dans un état de dormance. C'est le cas lorsque les conditions environnementales vont se détériorer. Eh bien, ils vont garder la mémoire même un mois plus tard. C'est fascinant.
C'est fascinant. Ouais.
Et pendant cette phase de dormance, ils vont stocker le sel qu'ils ont absorbé pendant la phase d'apprentissage. Ainsi, c'est peut-être bien la substance aversive elle-même, donc en l'occurrence ici le sel, qui constitue le support de la mémoire du blob. Reste à déterminer maintenant si le blob est capable de mémoriser plusieurs substances en même temps et dans quelle mesure il peut alors s'y habituer. Les recherches se poursuivent, mais c'est fascinant. Parce qu'au départ, c'est rien, quoi. C'est un blob. En plus, on lui a donné ce nom-là, c'est même pas valorisant. C'est des recherches fascinantes que l'on découvre avec, avec tes anciens collègues.
Oui, dans les affaires à suivre. Et c'est vrai que du coup, Audrey Dussutour est vraiment spécialiste sur le sujet. Justement, je l'avais interviewée parce que le livre qu'elle a écrit est sorti à cette époque-là, donc sur le blob. Normalement, c'est le titre du livre. Hein, donc, vous pouvez le trouver si vous êtes justement intéressé. C'est très bien fait, très bien vulgarisé. Et c'est vrai que ça vaut le coup d'aller voir des images sur Internet pour un peu mieux comprendre, un peu mieux découvrir cet organisme qui prend des formes très différentes aussi. Hein.
Différentes et qui n'a donc pas de système nerveux. Donc, quelque part, il n'a pas de mémoire.
C'est ce qu'on pourrait croire.
C'est ce qu'on pourrait croire. Et en fait, on se rend compte qu'il mémorise. Mais alors comment,
mais
pourquoi
autre façon,
et d'une autre
ouais.
façon. Et ça peut avoir des avancées et des débouchés vraiment aussi intéressants. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être anodin et insignifiant comme on pourrait le penser au premier abord quand on lit cet article, bien sûr. Et je suppose qu'il y a sûrement des choses inavouables qui ont dû se passer à Toulouse, mais on n'en saura rien. Je ne pense pas que Anne Fleur nous emmène à Toulouse. Elle nous emmène ailleurs. Mais on lui demandera d'ailleurs qu'elle fasse une petite rubrique sur Toulouse pour les prochaines émissions de Biotine. Toutes les semaines, Anne Fleur choisit une ville, s'y arrête et nous parle des différentes inventions qui ont été créées dans cette ville. Je ne sais pas où elle nous emmène, on va bien voir ça. Bonjour Anne Fleur.
Good morning Compiègne. Bonjour à tous et salut Jean-Noël. Alors j'espère que vous avez passé une super semaine et que le week-end a bien commencé de votre côté. Nous voilà de retour en Europe aujourd'hui pour la chronique qui vous fait voyager en découvrant des innovations du monde. La semaine dernière, nous étions à Rio au Brésil, mais c'est direction le nord que nous prenons aujourd'hui et plus particulièrement à quelques centaines de kilomètres au nord de Compiègne, direction Bruxelles, au cœur de la Belgique. Et c'est sans transition pour commencer que nous parlons de cette première invention qu'est la pilule contraceptive. Alors la toute première pilule a bel et bien été produite aux États-Unis en 1957, mais celle-ci avait vraiment énormément d'effets indésirables. Du coup, c'est 4 ans plus tard qu'un gynéco flamand du nom de Ferdinand Peters développa une version améliorée de cette pilule pour en faciliter l'usage par le plus grand nombre de patientes. C'est fut en fait la méthode de contraception orale la toute première avec des effets secondaires acceptables et qui fut donc utilisée et adoptée à l'échelle mondiale. La Belgique étant très très catholique à l'époque, et Peters également, l'inventeur a été obligé du coup de garder son invention un peu dans l'ombre pour éviter de déclencher différents scandales. Du coup, il n'a jamais breveté son invention et l'a vendue à une firme pharmaceutique en Allemagne pour un prix relativement dérisoire. La deuxième invention dont je vais vous parler, on va parler de musique. Adolf Sax, il a cherché à développer en fait des instruments, une nouvelle famille d'instruments qui soit entre la famille des cordes et celle des vents. Et c'est ainsi que notre seconde invention est née en 1846, j'ai nommé le saxophone. Sax a ainsi créé le saxophone avec un embout à une seule hanche et breveté 2 groupes de 7 instruments. Sans l'invention de Sax, nous n'aurions pas les fameux riffs de saxophone de One More Night de Phil Collins, Careless Whisper de George Michael ou encore l'un des solos de saxophone les plus reconnaissables du saxophoniste américain nommé Clarence Clemons dans Jungle Band de Bruce Springsteen, le boss. La troisième invention dont je vais vous parler, il n'y a pas de manière super glam de vous la porter, je vais vous parler des maux de ventre et plus précisément d'Imodium. Alors il y a des chances que vous en ayez déjà pris. Grâce au médecin belge Paul Janssen, l'Imodium, aussi connu sous son nom scientifique l'Opéramide, il fut produit pour la première fois à Janssen Pharmaceutica en 1969. Ce médicament agissant rapidement a été conçu pour diminuer la fréquence des symptômes de gastro-entérite et est depuis listé par l'OMS comme un médicament essentiel. J'allais dire ça vous embouche un coin, mais c'est pas très très classe. La quatrième invention dont je vais vous parler, elle nous permet en fait de prendre aujourd'hui plus de 10 photos et de les stocker sur notre ordinateur ou téléphone sans pour autant en saturer la mémoire. En effet, grâce à la mathématicienne baronne Ingrid Daubechies, je ne sais pas trop comment ça se prononce, nous utilisons aujourd'hui le standard JPEG 2000 pour enregistrer nos photos. Ce standard en fait permet de compresser les images et d'identifier les informations de l'image qui ne sont pas nécessaires pour en retirer ces morceaux afin d'en faire des fichiers moins lourds. Cette invention est utilisée tous les jours et sans elle, nous n'aurions peut-être pas la possibilité de déverrouiller nos téléphones avec nos empreintes digitales par exemple. Et pour l'anecdote, la baronne, je ne sais pas si elle a été mal conseillée, mais en tout cas, elle n'a jamais déposé de brevet, ce qui fait que c'est quelque chose de complètement gratuit. La cinquième et dernière invention dont je vais vous parler, on l'utilise littéralement tous les jours. La douce odeur de goudron frais posée sur nos routes. Je plaisante. N'empêche que c'est tout de même une invention qui a changé nos modes de vie et que l'on doit au chimiste belge Édouard de Smet. Grâce à lui, nous avons des routes modernes qui ne défoncent pas la suspension de nos voitures. Sauf à Boston. Il a déposé un brevet sur le dépôt d'une couche de goudron en 1870 sur les routes, alors qu'il travaillait sur les problèmes de poussière de charbon à l'université de Columbia à New York. Et les premières applications de son invention se furent du coup pas très très loin de là où il était à l'époque, c'est-à-dire à New York. Et donc c'est en 1872 que les pionniers en termes de route, ce fut Battery Park et la 5ème avenue de la ville de New York. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la balade chez nos voisins les Belges qui ont inventé plein d'autres choses que ces 5 inventions dont je vous ai parlé, et notamment la bande dessinée. Et je leur en suis extrêmement reconnaissante puisque j'adore ça. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.
Merci Anne Fleur, on était donc à Bruxelles avec toi cette semaine et on verra la semaine prochaine où est-ce que tu nous emmènes pour ces inventions du monde. Biotine, émission de science, de technologie, Biotine également émission de musique. On va écouter un titre et on retrouve juste après Carole qui nous parle de... Pardon, excuse-moi Carole.
Tu m'as coupé mon micro.
Ah, si ça pouvait être... ça pouvait être possible dans la vraie vie, ça me ferait des fois du bien.
Non, on va parler d'espace, j'en dis pas plus.
On va s'envoyer en l'air juste après ce titre. We'll be right back.
Graphite 94.9 FM.
C'était Johnny Mafia avec Say Yale, assez répété dans son titre pour qu'on comprenne le titre. Donc du coup, Say Yale sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. L'actualité scientifique vous est proposée sur l'antenne de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous sommes le 8 juin, émission du samedi. Vous êtes également peut-être en train de nous écouter à mardi matin. C'est normal, c'est la rediffusion de cette émission. Et tous les samedis, on feuillette comme ça le grand livre de la science et de la technologie. Et Carole, tu nous avais promis de nous envoyer là-haut, très là-haut, tout là-haut.
Oui, dans l'espace, avec en fait toutes les nouvelles avancées qui se passent en Chine pour la course aux découvertes qui ont attrait à l'espace, et notamment la course aux astéroïdes, puisque la Chine a annoncé récemment le lancement d'une sonde vers un astéroïde dans le sillage d'expéditions similaires qui ont été lancées ces dernières années en Europe, aux États-Unis ou au Japon, dont on parle bien plus souvent dans ce type de mission. Alors cette mission chinoise, elle doit durer 10 ans et elle est à destination de l'astéroïde 2016 H03, un minuscule corps céleste de 41 mètres de diamètre qui évolue au plus près à 5,2 millions de kilomètres de la Terre. Alors c'est ce que nous a annoncé l'agence spatiale chinoise. La sonde sera chargée de rapporter des échantillons du sol de l'astéroïde. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de date exacte pour le lancement de cette mission. L'engin se divisera en deux lors de son retour vers la Terre. D'un côté, une capsule transportant les échantillons regagnera le sol terrestre, tandis qu'un autre module se dirigera vers un autre objet céleste encore plus lointain, la comète 133P, qui cette fois-ci est distante de plus de 300 millions de kilomètres de notre planète. Alors... on a le directeur du Centre d'exploration et d'ingénierie spatiale, Monsieur Liu, qui a appelé en fait les savants du monde entier à participer à l'expédition et à embarquer leurs expériences à bord de la sonde. Cette annonce de cette nouvelle mission chinoise, elle survient alors que le Japon est parvenu en février à poser une sonde sur un astéroïde distant de 340 millions de kilomètres de la Terre. Et cette sonde, elle a déjà largué en fait en octobre un petit robot franco-allemand nommé Mascotte. Mascotte, il est considéré en fait comme le petit frère de l'atterrisseur Philae. On se souvient des aventures de Philae sur la comète Chury à plus de 500 millions de kilomètres de distance et qui avait passionné tout le monde en 2014. Donc ça avait été le premier objet terrestre à se poser sur une comète. Et voilà, on voit que maintenant, il y en a plein d'autres et que, entre guillemets, voilà, il aura des petits frères et des petites sœurs. Alors de son côté, la NASA a fait survoler début janvier par sa sonde New Horizons, l'objet baptisé Ultima Thule, situé à la distance, alors là c'est incroyable, la distance phénoménale de 6,2 milliards de kilomètres, c'est vraiment aux confins du système solaire. Et il s'agit en fait du corps céleste le plus lointain jamais observé, de près, c'est-à-dire à 3500 kilomètres. Alors bon, ça, c'est vertigineux, je pense que c'est difficile de se rendre compte quand on n'est pas astronome. On peut citer également une autre sonde de la NASA qui s'appelle OSIRIS-REx, j'aime beaucoup le nom, et qui a établi en fait un record fin décembre en se plaçant en orbite autour de l'astéroïde Bennu à quelques 110 millions de kilomètres de la Terre. Alors, avec ses 500 mètres environ de diamètre, c'est le plus petit objet cosmique autour duquel un engin spatial se soit jamais placé en orbite aussi proche. Oui, parce que quand c'est petit, c'est difficile, j'imagine, de calculer et de pouvoir lui faire faire le tour. La Chine, donc, n'est pas en reste dans ce type de mission pour pouvoir en apprendre plus sur les astéroïdes qui nous entourent, enfin, de manière lointaine, pour certains. Et donc, justement, la Chine a décidé désormais de dépenser davantage pour ses programmes spatiaux civils et militaires, plus que la Russie, plus que le Japon. L'OCDE évalue son budget à 8,4 milliards de dollars en 2017, c'est-à-dire, ça correspond au deuxième budget du monde après celui des États-Unis. Donc, ça, c'est la Chine qui compte faire entendre sa voix auprès des autres nations, donc là, dans la course aux astéroïdes, mais de manière générale, de toute façon, dans toutes les grandes avancées, toutes les grandes missions qu'on peut observer à l'heure actuelle dans l'espace. Et mais bien sûr, de quoi est-ce qu'on parle régulièrement sur l'antenne de Graphite dans l'émission de Biotine ? Eh bien, c'est la course à la planète Mars. Et là, on a non plus, la Chine n'a pas envie d'être en reste. Elle a en fait créé une impressionnante base spatiale éducative Donc, c'est dans un endroit en fait reculé du désert de Gobi. Ils ont estimé que les conditions là-bas étaient réunies pour faire ce genre de choses. Et ça leur permet en fait de présenter aux visiteurs à quoi la vie pourrait ressembler sur Mars. Alors, ça ressemble, hein, si on regarde les photos, à des bâtiments blancs qui sortent du sable, justement, qui ressemblent, c'est un sable ocre au milieu de collines arides. Et pour l'instant, ils font visiter cette base, qu'ils ont appelée la base Mars One, à des adolescents, en fait, à des élèves, pour leur montrer quelles pourraient être les conditions de vie sur Mars si jamais l'homme réussit à y installer des colonies. Donc cette inauguration, elle intervient justement au moment où la Chine est en train de rattraper petit à petit son retard sur les États-Unis et sur la Russie en matière d'exploration spatiale. Un autre projet que la Chine a également, c'est d'envoyer un jour un homme sur la Lune. Et pour ce qui concerne Mars, la Chine prévoit en fait d'envoyer un véhicule téléguidé l'an prochain. Ça paraît une échéance courte, donc bah, on suivra cette affaire-là. Et donc, sur la fameuse base, hein, on en revient à la base qui est visitée donc, par nos fameux élèves chinois, eh bien, elle est équipée d'un dôme couleur argent et de 9 modules qui abritent des lieux de vie, une salle de contrôle, une serre ou un sas. Pour la visiter, les adolescents enfilent en fait, des combinaisons et partent en fait, après en randonnée dans le désert. On leur fait un petit peu explorer tout ce village. Faut noter que ce programme, il a reçu l'aide du Centre des astronautes de Chine et du China Intercontinental Communication Center. Cette base, elle est spécifiquement destinée en fait à la popularisation des connaissances spatiales auprès des élèves, mais elle devrait également accueillir des touristes. Et certainement, tout un, on verra, mais ce sera peut-être un lieu extrêmement visité dans les prochaines années.
Ah, mais sûrement, oui, à mon avis.
On va en vacances dans le désert du Gobi, ou plutôt sur Mars, hein, on pourra peut-être...
Pourquoi pas.
On ne sait pas, peut-être qu'ils... Moi, les connaissants, ils vont créer quelque chose de grande ampleur. Ils ne font jamais quelque chose de...
C'est jamais de... médiocre.
C'est jamais, non. Il y aura peut-être des hôtels, il y aura peut-être tout un complexe touristique, je ne sais pas.
C'est possible. Alors, tu nous parles de la Chine, tu nous parles de Mars, bien sûr, et de la Lune également. Il ne faut pas oublier que la Chine a réussi son premier alors, atterrissage. Non, on parle d'alunissage, hein, parce qu'on parle de la Lune, sur la face cachée de la Lune, hein, il y a quelques mois. Moi, je vais te parler de l'Inde, parce que l'Inde est également dans la course. L'Inde et son agence spatiale s'apprêtent aussi à réaliser une première en faisant atterrir un rover au pôle sud de la Lune. Alors la mission, elle s'appelle Chandrayaan 2, elle comprend aussi un orbiteur. C'est la seconde mission indienne à destination de la Lune, après la mission Chandrayaan 1. C'était en octobre 2008 et je m'en souviens parce que c'était l'un des premiers articles que j'avais évoqué dans les premières émissions de Biotine, il y a 10 ans. L'Inde était bien partie et puis ça s'est un petit peu calmé, mais elle revient, l'Inde, dans la course. Alors c'était initialement prévu au début de cette année, mais le lancement a été reporté le plus tôt possible et donc il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre entre le 9 et le 16 juillet. Donc on va suivre ça avec intérêt dans les prochaines semaines. Et cette mission va donc sera lancée à bord donc d'un lanceur. Et une arrivée est prévue sur la Lune le 6 septembre. Donc ça peut être génial parce que si on reprend cette émission à la rentrée de septembre, on aura peut-être en direct l'alunissage donc de cette mission indienne. Alors, on sait qu'il y a un regain d'intérêt pour la présence humaine sur la Lune, tu l'as évoqué, mais cette mission indienne sera forcément très suivie parce que le pôle sud de la Lune est la région de la Lune privilégiée pour une future mission habitée et l'installation donc d'une base. Le pôle sud a cela d'intéressant qu'il abrite un grand nombre de sites ensoleillés en permanence. Alors qu'ailleurs, sur la Lune, donc, eh bien, il y a la nuit et le jour qui durent 14 jours. C'est quand même long. Hein,
c'est certain.
Ça ne doit pas être simple. Et puis, le fond des cratères qui sont situés près des pôles sont par contre dans une nuit perpétuelle. Ils ne sont jamais éclairés par le soleil. Et on considère que la température est très basse, jusqu'à moins 238 degrés Celsius. Et donc, à cause de cette très basse température, on pourrait trouver de la glace piégée au fond de ces cratères polaires. Donc ça peut être vraiment intéressant et on va suivre ça avec intérêt. Alors, au niveau des objectifs de cette mission, ils sont nombreux et tout sera va être détaillé dans les prochains jours par l'agence spatiale indienne, mais on sait déjà que la recherche de l'eau en sera l'un des principaux objectifs de cette mission. Cette recherche va occuper l'essentiel du temps de l'orbiteur de la mission, et pour cela, il va utiliser un radar avec un système d'ouverture pour observer le fond des cratères et essayer de détecter de la glace donc au fond, ainsi qu'un spectromètre d'imagerie infrarouge pour caractériser et tracer des cartes d'abondance de présence de certains radicaux hydroxyles. Donc on va essayer en clair d'essayer de détecter des témoins de présence d'eau. L'atmosphère de la Lune est aussi un objectif de cette mission, une atmosphère qui sera étudiée depuis l'orbite mais également depuis le sol. Le but, en fait, c'est de mieux comprendre le fonctionnement et de faire un inventaire aussi précis que possible des gaz rares ou des gaz à l'état de trace comme l'argon, le néon ou l'hélium également présents sur la Lune. Au sol, eh bien, l'atterrisseur utilisera un sismomètre pour enregistrer les tremblements de terre à proximité du site d'atterrissage. Une sonde thermique va effectuer les toutes premières mesures du profil de température et de conductivité thermique dans le sol lunaire jusqu'à une profondeur de 100 mm. Donc c'est pas énorme, mais ça va donner quand même des informations intéressantes. Enfin, le rover, lui, va réaliser la mesure des éléments constitutifs de la surface à différents endroits. Une mesure pas si inodine qu'il y paraît, parce que ça pourrait en effet contraindre les différents modèles théoriques de l'origine de la Lune. Bref, l'Inde revient dans la course. L'Inde va se poser à un endroit vraiment intéressant. L'Inde va mener des recherches et l'Inde va donner des informations intéressantes sur la Lune et aussi sur les futurs mission habitée sur la Lune. Donc bravo à l'Inde. C'est vrai qu'on parle très très peu de l'Inde dans cette émission. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce parce qu'ils communiquent très peu? C'est peut-être la raison. Ou est-ce que les médias français sont moins intéressés et du coup par répercussion, comme on fait un peu une revue de presse de l'actualité, on a moins d'informations sur l'Inde. Et on découvre comme ça, soudainement, que l'Inde va faire une mission vraiment intéressante et on est à la barbe de grands autres pays, dont la Chine que tu viens évoquer.
Et d'ailleurs, dans les articles là que je viens de citer qui parlent de la Chine et de sa course donc, pour toutes ces missions spatiales, on ne parle pas de l'Inde. On parle à chaque fois des grandes puissances, et alors qu'en fait, ils sont en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire.
Oui, parce qu'il y a donc 10 ans, ils avaient fait quelque chose d'assez intéressant. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, on n'en a plus entendu parler, ça s'est un petit peu calmé, ils avaient peut-être d'autres priorités après tout, mais oui, là ça revient.
Vu les budgets, c'est certain que pour des pays comme ça, c'est compliqué.
Ça ne va pas être simple, mais là ils reviennent, dans une mission qui a un vrai intérêt en fait. C'est pas juste une mission, oui on va y aller pour faire coucou et planter un drapeau, c'est plutôt une vraie mission intéressante qui va aider les autres pays. Ce qui est intéressant, c'est un peu le genre de coopération internationale qui se met en place pour que l'on puisse atterrir sur la Lune. Tu parlais de Mars, oui, comme destination, et on n'oublie pas que la Lune revient également
dans l'actualité
depuis, mais assez récemment, quoi, depuis un an et demi, 2 ans, je crois, grand maximum.
Tout à fait.
La Lune revient et on va essayer d'installer maintenant une station spatiale, pas éphémère, le contraire, durable, je vais y arriver, sur la Lune, pour ensuite partir sur Mars. La Lune, c'est ta prochaine destination de vacances, Carole, et tu ne le sais pas encore.
Je pensais que ce serait Mars, ou en tout cas la base chinoise, Mars, imitation
c'est trop
vie sur
tôt.
Mars, mais oui, Mars, c'est trop tôt.
Mars.
La Lune,
Mars,
d'abord.
Le trajet vers Mars est long, c'est plus d'un an.
Oui, c'est vrai.
Tu ne peux pas. D'abord la Lune, tu verras ensuite. Chaque chose en son temps. Il faut le mériter, Carole.
on verra.
De quoi nous parles-tu?
Alors,
on enchaîne avec quoi?
On enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir.
Donc pas de transition.
Non. Alors, on revient sur Terre, on revient sur l'être humain et on revient sur, en fait, une énigme à laquelle les scientifiques ont essayé de répondre. C'est un article que j'ai trouvé sur Internet, sur slate.fr, mais qui a également été cité à différents endroits, et qui nous parle de la fabella. Qu'est-ce que c'est? C'est un os visiblement inutile, un os sésamoïde, un vestige de ligament calcifié qui est situé dans le tendon du genou. Et fabella, ça veut dire petit haricot.
Parce que je suppose qu'elle a une forme de petit haricot.
on imagine. Et à première vue, en fait, cet os n'a aucune utilité. Et d'ailleurs, n'est pas présent chez tout le monde, hein, sans que cela ait d'impact sur la santé ou la stabilité des personnes qui n'en ont pas. Donc, vivre avec ou sans fabella, même combat, hein, dit l'article. Mais par contre, ce qui a été observé, et c'est là où ça a intéressé les scientifiques, c'est que le taux de prévalence de la fabella a été multiplié par 3,5 en 100 ans. Ce qui, j'imagine, sur cette échelle de temps, est quand même très significatif. Mmh. Donc, et visiblement, sans raison apparente, hein, le pourcentage de personnes ayant des fabellas est ainsi passé de 7,64% en 1900 à 31% en 2000, selon une étude réalisée par des scientifiques de l'Imperial College London.
Ah, c'est beau.
Donc le docteur Michael Bertone, qui est directeur de cette étude, eh bien, il s'est rendu compte par hasard en fait, de cette prévalence surprenante de la fabella, alors qu'il travaillait sur la conception de dispositifs médicaux pour les personnes dans les pays à revenus faibles et moyens. Eh bien, il a remarqué la présence récurrente de cet os en observant des scans de genoux d'un échantillon de coréens, coréennes. Alors, après des recherches plus poussées menées dans 27 pays, Michael Bertome et son équipe ont remarqué l'augmentation spectaculaire de personnes développant ces minuscules os. Curieusement, ils ont également constaté que les 10 autres os sésamoïdes que compte notre squelette n'avaient pas augmenté en prévalence avec le temps. C'est pas quelque chose de global sur cette famille d'os. Quelle serait la cause ? Pour l'instant, les scientifiques ne parviennent pas à expliquer ce phénomène et se contentent prudemment quelques hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'ils suggèrent ? Déjà, il semble y avoir un lien entre les fabellas et l'arthrose. Les personnes souffrant de douleurs articulaires étant deux fois plus susceptibles d'être dotées d'une fabella. Une autre piste, c'est qu'une alimentation plus riche et plus variée qu'au siècle dernier en fait, serait donc c'est un facteur qui est global hein, quand même sur le monde entier. Les gens sont mieux nourris et ça indique que peut-être les os sésamoïdes comme la fabella ont tendance à se former dans les zones du corps où il y a une tension musculaire afin de réduire la friction. Encore une fois, selon le chercheur que j'ai cité, bah, plus les gens grandissaient et grossissaient au siècle dernier, plus ces os se formaient pour aider le genou à faire face à la pression accrue. Ça paraît intéressant comme théorie. Après, c'est une théorie parmi tant d'autres. Évidemment, il faut conserver un esprit critique. Rien n'est sûr. Michael Bertome explique, hein, nous n'avons aucune idée du rôle de cet os parce que personne ne s'y est jamais intéressé. et donc, pour lui, en tout cas, il précise bien que l'apparition des fabellas n'est pas liée à des raisons génétiques.
Bon, bah écoute, on essaiera d'en savoir plus alors. C'est intéressant, voilà. Ça pose pas mal de questions.
Moi, je ne sais pas si j'en suis dotée ou pas. Il faudrait que j'aille faire un scanner de mon genou.
Mais oui. Et ça t'apportera quoi de savoir si t'en as ou pas ?
Ben, je sais.
Rien.
Non,
c'est, ben, y a par curiosité.
Oui, par curiosité, par curiosité.
On a eu Anne Fleur dans cette émission avec sa chronique. Elle revient depuis plusieurs semaines. Il y a toi, Carole, aujourd'hui physiquement présente dans le studio. On embrasse Peggy qui nous rejoint ponctuellement dans cette émission. Il nous manque Peggy. Ben, on va penser à lui juste après le titre qu'on va écouter parce qu'on va parler de la bière. Il y a Kodak et un brasseur américain qui se sont associés pour mettre au point une bière vitaminée qui permet de pouvoir développer également des photos.
Ça lui plairait.
Je pense que ça lui plairait. On écoute un titre tout de suite et on se retrouve bien sûr sur l'antenne de Graphite.
10000% libre de payola.
Mister, mister, habla español. Parlez-vous français. No lo comprendo. Mister, mister. Que pasa en el tiempo.
Graphite également à l'écoute sur graphite.net.
Et c'était, pardon, je n'avais pas appuyé sur le bon bouton, la Galera Social Club que l'on vient d'écouter avec Mister. Mister, sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous êtes peut-être à table, je vous souhaite un bon appétit. Vous buvez peut-être de la bière, alors attention, c'est bien sûr à consommer avec modération parce que le CSA nous écoute. C'était notre vieille réplique avec PJ à chaque fois qu'on parlait de la bière. Donc j'ai une pensée pour lui avec cet article. Bon, c'est un article un petit peu... On a tellement depuis quelques semaines là évoqué des sujets quand même assez lourd parfois.
On va un peu se détendre.
Il va falloir un petit peu se détendre avec des sujets qui sont quand même sérieux. Et en fait, il y a le PDG d'une brasserie américaine Dogfish. Il s'appelle Sam Kalagian. Et puis, il a écouté un podcast diffusé par Kodak sur les innovations et la créativité en photographie. Et il a appris que les niveaux élevés d'acidité de vitamine C dans certaines bières peuvent en faire un agent de traitement idéal pour les films photographiques. Et par chance, dit-il, eh bien, son équipe de recherche et de développement travaillait à la création d'une nouvelle bière dont le profil et la composition étaient similaires à ceux qui étaient évoqués dans le podcast. Résultat, eh bien, c'est une bière qui titre à 5,3 degrés d'alcool, une bière de couleur rouge vif élaborée à partir de 8 ingrédients, de la figue de Barbarie, de la mangue, des fruits rouges, hein, mûres, framboises, sureaux, du jus de kiwi, du quinoa. Il y a également du sel marin d'Hawaï. Et cette bière révèle un goût légèrement acidulé avec de délicieuses saveurs de baie et de pastèque, ce qui est assez original parce qu'apparemment il n'y a pas de pastèque dedans, mais ça a un goût de pastèque, je trouve ça fascinant. La canette est commercialisée depuis le mois d'avril et elle est baptisée Super 8 en hommage bien sûr aux pellicules Super 8 commercialisées par Kodak dans les années 60. Il y a une vidéo que vous pouvez voir sur internet qui montre le résultat obtenu et qui est quand même assez comparable à ce qu'on obtient avec un révélateur chimique traditionnel. Alors, par quel miracle ces ingrédients peuvent-ils servir à développer des films argentiques ? Eh bien, l'article nous en propose un petit peu plus. En réalité, la bière sert uniquement de révélateur, parce qu'il faut quand même toujours encore un bain d'arrêt pour stopper l'action et un fixateur pour stabiliser l'image. Et donc, ce révélateur sert à renforcer la différence de contraste en catalysant la réaction de réduction des sels d'argent qui sont exposés à la lumière. Et dans le cas de la bière, c'est l'acide ascorbique, en clair la vitamine C, qui va réagir avec les sels d'argent. Et certains passionnés de photos ont d'ailleurs concocté leur propre recette maison de révélateur à base de comprimés de vitamine C, nous dit-on, de café soluble, de carbonate de sodium, de thé, de lessive, du gros sel. Ils font leur truc. Donc là, maintenant, il y a de la bière qui peuvent aider. Et Kodak, du coup, s'est associé avec cette brasserie et vous donne un mode d'emploi. Donc papier, crayon, notez, mesdames et messieurs, si vous voulez vous-même développer vos propres films, vous allez verser 500 millilitres donc de cette bière Super 8 dans une casserole, vous la faites chauffer à 32 degrés. Vous transférez dans un récipient suffisamment grand pour que le film soit entièrement immergé, donc il faut environ 8 litres, donc c'est quand même une grosse marmite. Hein. On ajoute 12 grammes de vitamine C en poudre ou effervescente, 50 grammes de bicarbonate de soude, on laisse décanter pour bien dissoudre les cristaux. Et dans le noir, vous allez plonger le film dans ce bain révélateur. Vous allez agiter continuellement pendant 15 minutes. Vous transférez le film dans le bain d'arrêt pendant 30 secondes, puis dans le bain fixateur 3-4 minutes. Vous allumez la lumière, vous rincez le film à l'eau, vous faites sécher, c'est prêt, c'est formidable. Et vous avez donc pu développer votre propre photo grâce à cette bière. En fait, la bière s'inspire décidément tous les secteurs de l'industrie, parce que depuis quelques mois, il y a plein de choses qui se sont mises en place. En janvier de cette année, Kellogg's s'est associé avec une brasserie britannique pour fabriquer une bière à base des rebuts de cornflakes, avec l'idée de réduire ainsi le gaspillage. Il y a plusieurs brasseries artisanales françaises qui récupèrent du vieux pain pour leur breuvage. En avril, il y a British Airways qui avait fêté son 100e anniversaire en brassant sa propre bière à bord d'un Boeing 787 de façon à ce que l'amertume et les saveurs fruitées ne soient pas affectées par l'altitude, nous dit-on entre guillemets. Et par ailleurs, la bière, nous dit-on, ça peut servir à donner du volume à vos cheveux, oui on le sait, faire briller les bijoux, attendrir la viande, éliminer les limaces du jardin. Bref, ça sert à tout. Il faut peut-être la boire aussi, hein, les savoir. Mais voilà, je trouvais cet article assez intéressant parce que c'était l'idée voilà, d'associer Kodak avec un brasseur américain pour faire une bière qui développe des photos. J'ai quand même un peu des doutes sur le goût de cette bière. Mais bon, après tout, on n'en sait rien. Il faut
on demandera à PJ de tester.
Hein. Ben, on demandera à PJ de tester et on verra par la suite. On boit avec modération de la bière. Et puis, qu'est-ce qui se passe après ?
Il faut éliminer. Pas le choix et ça tombe très bien puisque on va parler donc d'urine. Mais
j'adore le sérieux avec oui, lequel tu abordes ce sujet-là.
Mais je suis certaine que vous ne vous doutez pas de quelle façon puisque il va s'agir en fait d'archéologie.
D'accord.
Voilà, ça serait potentiellement l'urine, un nouvel outil de recherche pour les archéologues. En tout cas, c'est ce que nous dit franceinfo.fr en avril dernier, puisque donc une équipe internationale d'archéologues et de géologues a eu l'idée de compléter les connaissances sur le site d'Azikli Oyuk en Anatolie centrale en analysant les sels laissés par l'urine animale et humaine dans différentes couches du sol. C'est une idée qui leur a donné des informations sur l'évolution de ce village et les habitudes d'élevage au tout début du néolithique. Alors, ils ont publié leurs résultats très sérieux dans la revue Science Advances. Reprenons l'histoire depuis le départ. Il y a environ 10 000 ans, les habitants d'un village d'Anatolie centrale ont commencé à élever moutons et chèvres. On ignorait alors à quel rythme cette domestication s'était faite, jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues s'intéresse aux riches traces d'urine laissées dans le sol. En fait, en comparant les différentes couches de sédiments sur 14 mètres, ils se sont aperçus que la concentration des sels augmentait fortement au fil des siècles, ce qui ne peut avoir selon eux qu'une seule interprétation, plus d'animaux au mètre carré. Ils estiment qu'entre 10 400 ans et 9 700 ans avant cette année, hein, le présent, maintenant, là où nous vivons, la concentration de sel a augmenté de 10 à 1000 fois. Ce qui produit une chronologie détaillée en fait de la transition de la chasse et la cueillette à l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire de la sédentarisation qui caractérise justement la période du néolithique. Les archéologues avaient certes de multiples indices hein, glanés grâce aux méthodes conventionnelles. Je rappelle ces méthodes conventionnelles, des traces d'habitation et d'enclos, des piles d'ordures et de déjections humaines et animales, des ossements d'animaux, donc très sympa aussi comme indicateur. Tout cela montrait bien la sédentarisation des humains de l'époque, mais ça ne suffisait pas à calculer précisément le nombre de bêtes élevées au fil des siècles. Alors, l'un des auteurs de l'étude, hein, Jordan Abel, qui est géochimiste à l'Université Columbia à New York, explique « Si vous trouvez un tas de fumier dans une couche et deux dans la couche supérieure, cela ne suffit pas à quantifier l'échelle réelle de la pratique. » Donc, ce site présentait l'avantage d'avoir été relativement sec depuis 10 000 ans. Et ce sont des sites archéologiques similaires qui pourront être candidats à des analyses de ce type pour retracer plus précisément l'histoire de l'élevage ou même des premiers villages humains, a fortiori si les analyses parvenaient à différencier à l'avenir les urines animales et humaines. Alors, pour conclure, hein, je vais citer cette phrase donc, du scientifique hein, Jordan Abel. « Ce qu'il faut, c'est une bonne conservation des matériaux sur lesquels ces gens ont uriné. »
J'adore ces phrases définitives comme ça, que l'on peut placer là aussi dans une conversation.
Tout à fait.
Ça peut être très utile.
Un dîner mondain.
Tu as très souvent des dîners mondains, peut-être.
Tout à fait.
Et donc, du coup, est-ce qu'il t'arrive parfois de placer ce genre d'article, pas nécessairement celui-ci, mais d'autres ?
Ah oui, ça peut arriver, oui. Et celui-ci sera peut-être plus difficile.
C'est un vrai défi. Tu devais faire quelque chose pendant cette semaine, d'ailleurs. C'était placer le nom de ce fameux Suski-Tyrannosaure.
Ah oui, le mini-tyrannosaure. Oui. Ben...
Tu as réussi?
C'était compliqué.
Donc, tu n'as pas réussi, alors. Je suis extrêmement déçu.
Il me faut un délai supplémentaire.
Je t'accorde ce délai supplémentaire pour essayer de placer toutes ces informations. Mais il est vrai que, voilà, dans cette émission, on parle depuis plusieurs années de plein d'articles. Il faudrait que je calcule le nombre d'articles qu'on a pu évoquer dans cette émission. Parfois très sérieux, parfois très long, parfois très léger.
Oui, je voudrais en citer un que j'ai réussi à placer justement régulièrement au sein des conversations. C'est le fameux mamoufant.
Bien évidemment.
Mamoufant, ma première dans l'émission.
Rappelle-nous, l'origine de mamoufant, c'était...
Mammouth et éléphant.
Ouais.
Le mamoufant. C'était un croisement. Enfin, c'était essayer de faire revivre en fait le mammouth via une insémination artificielle d'une éléphante d'Asie.
Exactement. Ça a été ton premier article et ça nous a évidemment scotché le fameux mamoufant. Mais il y a plein d'articles comme ça qui reviennent au gré d'une conversation parce que on évoque un sujet et du coup, tac, on fait le lien avec ce que l'on vient d'évoquer. Mais alors là, précisément au niveau de l'archéologie, ça va être effectivement un défi à relever. Mais bon.
Je relève le défi.
Je n'en doute pas. Tu es une femme de défi, on le sait très bien, bien évidemment. C'est la fin de cette émission déjà, mais ça passe à une vitesse.
Et
mais
oui,
une
déjà.
Heure passée avec toi, Carole, c'est rapide. J'essaierai la prochaine fois de faire durer un petit peu plus ce plaisir. Est-ce que tu reviens la semaine prochaine? Tu ne sais pas, tout
je
dépend
ne sais
de ton
pas,
agenda
je...
assez bloqué.
Oui, c'est la surprise, mais ça va peut-être être compliqué. En tout cas, je reviendrai, c'est sûr.
Mais j'espère bien, sur l'antenne de Graphite, bien sûr. 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et bien sûr... Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Il nous reste encore 2-3 émissions pour terminer cette saison. Donc on te reste un tout petit peu de temps si tu veux revenir d'ici fin juin. Et puis si on revient à l'antenne, bien sûr, à partir de septembre prochain, on a compris qu'on attendra l'arrivée de l'Inde sur la Lune. Et ça sera peut-être le début de l'émission de la rentrée de septembre. On verra, ça sera peut-être l'actualité. On suit l'actualité, on suit le monde, Carole. Ou plutôt le monde nous suit, peut-être.
Oui, peut-être.
Merci Carole, bien, et puis merci à vous tous pour votre fidélité, votre attention. On se retrouve donc samedi prochain, je sais, soit seul, soit accompagné, on verra. En tout cas, moi, il y a quelqu'un qui ne me lâche pas, c'est Anne Fleur, que je retrouverai.
Qui sera
moi,
là, tout à fait.
Qui sera là, bien sûr, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, une nouvelle rubrique de ces inventions du monde, je vais y arriver. Oui, c'est l'heure d'aller déjeuner, je pense.
Allons manger, allez.
Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.